L'EM. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, en direct à midi, rediffusée à 18h. C'est un magazine avec, vous le savez, de vrais morceaux de Finistère dedans, de vrais morceaux de démocratie aussi, avec l'association Brued'aide, Bretagne rurale et urbaine pour un développement rural. C'est un réseau, c'est aussi un organisme d'appui technique pour les élus qui veulent faire entrer leur collectivité en transition écologique. Parmi les ingrédients de la transition, il y a du concret. On a déjà évoqué dans L'EM les cantines en bio et en produits locaux. On évoquera en deuxième partie d'émission les habitats légers. Et avec notre invité, on s'intéresse plutôt à la façon de monter des projets et de les réaliser en impliquant vraiment les citoyens des communes, voire peut-être des communautés de communes. Ça s'appelle les démarches participatives. Bonjour Maïwenn Magnier.
Bonjour.
Chargée de développement de Brued'aide pour le Finistère et le Pays de Pontivy.
Alors ça a changé, c'est plus le pays de Pontivy, maintenant j'ai changé mon territoire, je suis sur le pays de Lagnon-Trégor.
Mais toujours le Finistère aussi.
Tout à fait.
Et Brued'aide, en fait j'ai écorché, c'est Bretagne rurale et urbaine pour un développement durable, bien sûr. C'est ça.
Tout à fait.
Alors qu'est-ce que ça peut être une démarche participative pour une commune, parce que c'est vaste et flou?
C'est vaste et flou et en même temps, ça regroupe effectivement beaucoup de démarches différentes. Nous, on a choisi un petit peu de montrer les choses sous deux angles différents. Le premier angle étant des communes qui ont un projet, qui souhaitent impliquer les habitants, soit dans la réflexion autour d'un réaménagement de bourg, soit un projet plus précis sur des jardins partagés, sur un commerce. Voilà, ils ont un projet et ils souhaiteraient que les habitants s'impliquent dans ce projet-là. Donc, on a regardé un petit peu, on a rassemblé un certain nombre de retours d'expérience qui vont dans ce sens, c'est-à-dire comment les communes sont allées chercher des habitants pour les aider à monter, voire leur donner le projet pour que les habitants s'emparent du projet. Ça, c'est le premier angle. Et puis, la deuxième façon dont on a regardé un peu les choses, c'est, on va dire l'inverse, des habitants qui ont des projets, des habitants qui veulent créer un café associatif, qui veulent créer un événement, qui veulent faire du solaire citoyen, voilà, qui ont différents objectifs de porter des projets. Et on a regardé un petit peu comment les collectivités répondaient à ces demandes, en sachant que ce n'est pas toujours évident non plus de répondre, comment on répond, pourquoi on répond, à qui on répond oui ou non, etc. Donc on a effectivement un petit peu rassemblé beaucoup d'expériences parce que les collectivités aujourd'hui sont presque tenues de faire des démarches participatives.
C'est ce que j'allais dire, c'est, on a l'impression que ça explose ce genre de démarche. Il y a une obligation
Alors il n'y a pas d'obligation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation légale à ce qu'ils fassent des démarches participatives. C'est vrai que c'est quelque chose qui est de plus en plus courant parce qu'on voit bien qu'une démarche participative permet aux collectivités aussi d'être mieux reconnues des habitants et puis ça donne une réelle place à la démocratie. C'est-à-dire une réelle place à des projets portés par les habitants, dont les élus reflètent finalement les vouloirs. Mais ils sont, voilà, c'est bien aussi de pouvoir donner la main aux habitants, à différents degrés, évidemment. Il y a quand même des fois des appels à projets qui conditionnent en fait l'obtention de ces projets sur une certaine... on leur demande de faire des démarches participatives. Alors encore une fois, ce n'est pas une obligation, mais voilà, c'est incitatif.
On demande aux communes, oui c'est celui qui lance l'appel à projet. Par exemple, la région qui demande aux communes de faire
qui dit dans les lauréats et ben on regardera un petit peu les démarches que vous avez auprès de vos habitants. Donc c'est pas quelque chose d'obligatoire, mais n'empêche qu'on va favoriser, on va privilégier les collectivités, on va encourager, on va dire, les collectivités à avoir des démarches participatives parce qu'on voit bien que ça porte ses fruits et que ça permet vraiment une appropriation des projets intéressante.
Oui, quels sont les intérêts, parce qu'il y en a plusieurs en fait, je suppose, d'impliquer la population dans un projet en général.
Quels sont les intérêts
de faire une démarche participative?
Alors l'intérêt, c'est d'avoir vraiment des habitants qui, effectivement, s'approprient les projets. Parce qu'on voit bien que des projets qui sont portés uniquement par un groupe d'élus, parfois c'est pas toujours accepté ou c'est mal compris. Donc ça permet de partager, parfois simplement de mieux partager simplement un projet porté par une collectivité. Et puis aussi, ça permet de mesurer les réels besoins de la population aussi. C'est vrai qu'un travail participatif a souvent pour objectif d'aller chercher les raisons ou en fait les besoins, c'est-à-dire on va aller sonder les habitants, soit par des enquêtes, soit par des ateliers, soit par des groupes de travail, soit par des périodes de résidence pour des équipes qui vont venir pour les collectivités s'installer sur une commune pour recueillir un petit peu les besoins, laisser la parole aux gens. C'est pas toujours facile de s'exprimer, donc il y a plein d'outils différents qui existent pour quelque part recueillir ses besoins. Et voilà pourquoi, parce que ça permet de comprendre vraiment quels sont les besoins ou quels sont les usages, quels sont les réels usages. Par exemple, beaucoup de collectivités voudraient avoir un commerce. Par exemple, malheureusement, les commerces disparaissent dans les petites communes. Et il y a beaucoup de collectivités qui travaillent pour recréer des commerces ou des lieux de vie. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile parce que la concurrence est rude. Parce que
les gens, ils ne vont pas forcément. Ils demandent des commerces, puis après, ils n'y vont pas.
Voilà, par exemple. Donc, du coup, c'est vraiment intéressant, important, quand on veut, par exemple, sur un projet comme ça, très concrètement, de mesurer quels sont les besoins. Est-ce que les gens vont vraiment y aller? Pourquoi ils iraient? Comment ils iraient? Est-ce que c'est plutôt un café? Est-ce que c'est plutôt un restaurant? Est-ce que c'est plutôt de la restauration rapide? Est-ce que c'est plutôt un lieu de vie? Est-ce que c'est plutôt une association? Un café associatif? Enfin, voilà, un petit peu faire le tour de toutes les questions pour vraiment porter un projet, enfin mettre un projet qui sera réaliste et qui ne va pas mourir au bout de quelques mois ou de quelques années de projet. Donc,
ça permet de faire une sorte de communication, de pré-campagne de communication quelque part. Si le projet est mené à bien, au moins il aura été connu, sans doute.
Ça permet vraiment aussi, je pense, une bonne part d'acceptation des projets, c'est-à-dire que les élus qui sont quand même là pour défendre le bien public, donc ils montent des projets dans le but de faire revivre leur collectivité, leur territoire. Et donc, s'appuyer vraiment sur des retours des habitants, ça permet de justifier leur projet, peut-être, mais c'est pas tant justifié.
Légitime, quoi.
Voilà, légitimer. Mmh. Et puis, du coup, peut-être aussi le retravailler pour qu'il corresponde vraiment à un besoin. Parfois même peut-être l'abandonner si vraiment ça ne correspond pas à un besoin ou que le besoin a été mal identifié, on va dire, ou le réidentifier. Parce que parfois, ça arrive aussi que des collectivités, des élus aient une idée et qui finalement, quand ils confrontent cette idée à la population, ils se rendent compte que c'était peut-être pas une bonne idée ou que c'était pas cette idée-là qu'il fallait peut-être le retravailler. Voilà. Donc voilà. Après, il peut y avoir des projets qui fonctionnent mieux que d'autres, évidemment. Il y a plein de facteurs qui font qu'un projet fonctionne.
Est-ce qu'on a une typologie un peu plus... Le plus souvent, c'est sur quel type de projet on a parlé des commerces, mais en fait, dans les faits, là, dans les retours d'expérience de l'association Bruit d'Aide, c'est plutôt quoi, en fait, les projets ?
Alors, c'est très varié. J'ai parlé des commerces parce que c'est très concret. Je pense que ça parle à beaucoup de gens. Mais il y a aussi des démarches plus globales sur des aménagements, par exemple, de revitalisation de bourg, par exemple, où les élus se rendent compte que la commune, elle périclite un petit peu ou qu'elle a un petit peu cité dortoir ou qu'il y a du bâtiment vacants qui ne savent pas quoi en faire il y a beaucoup de raisons qui font qu'aujourd'hui des bourgs ont besoin d'être revitalisés. Donc ça, c'est des démarches pour lesquelles souvent les habitants sont associés pour réfléchir ensemble à comment on va faire revivre notre bourg. Donc ça, c'est des démarches plus globales. On va avoir des démarches sur des choses plus concrètes, sur des bâtiments, des fois parfaitement sur une médiathèque, c'est pas forcément du commerce, ça peut être aussi une salle des fêtes, ça peut être des choses où on implique un peu les habitants dans la réflexion autour de qu'est-ce qu'on veut, comment on le veut, est-ce que c'est plutôt là, sur les mobilités, sur les réflexions autour des mobilités. C'est vrai que...
Créer une voie cyclable, par exemple.
Les voies cyclables, la place du piéton, la place de la voiture, la place des transports en commun, comment est-ce qu'on arrive par rapport aux besoins qu'on a et aux infrastructures existantes, comment on arrive à marier tout ça pour que ça fonctionne et que ce soit cohérent par rapport aux politiques énergétiques, etc. Donc ça, c'est aussi des projets citoyens. Il peut y avoir des projets autour de l'énergie renouvelable. Donc, par exemple,
les fameuses éoliennes citoyennes.
Sur les éoliens citoyens, sur même des fois du photovoltaïque citoyen. Donc il y a des projets comme ça qui, effectivement, peuvent impliquer plus ou moins fortement les habitants. On a des projets aussi beaucoup sur les écoles, par exemple. Les écoles ou les pôles scolaires, effectivement, où les parents sont forcément très impliqués, en tout cas très demandeurs de voir ce qu'on va offrir à leurs enfants. Donc souvent, c'est des projets qui peuvent être partagés, tant sur la localisation que sur le fonctionnement des lieux, que sur la qualité des lieux, la qualité constructive. On beaucoup d'élus se posent beaucoup de questions sur la qualité de l'air, sur la qualité des matériaux, et particulièrement dans des lieux comme des lieux qui vont accueillir des jeunes enfants, parce que les enfants ils vont traîner par terre, donc on veut pas qu'on leur mette des peintures, des choses comme ça qui seraient nocives. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent motiver aussi. Sur l'espace public, on a aussi beaucoup de projets sur des places, sur des aménagements de bourg, sur des bancs, sur la place de la lumière, la place du piéton, sur le fleurissement, beaucoup de...
Le paysage, comme on dit,
voilà,
le paysager.
Paysager, puis sur la biodiversité aussi, qu'est-ce qu'on fait en termes de qualité paysagère d'une commune. Et les habitants sont souvent, beaucoup d'habitants sont assez sensibles au fait que la commune soit esthétique aussi. Donc, et souvent, ils participent activement. Dans beaucoup de communes, on voit que...
Ah oui, il y a des journées citoyennes. Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de participatif au sens de
oui.
démocratie, c'est-à-dire qu'on invite les gens à désherber le cimetière, la commune
ça, Alors, il y a effectivement des journées citoyennes qui sont organisées dans le cadre d'une journée nationale qui peut avoir lieu un peu n'importe quand finalement, mais oui, ça c'est une façon quand même de mobiliser les gens autour de projets très concrets.
Donc c'est un début quoi de démarche.
Voilà, c'est un début. Ça permet des fois d'accrocher des gens, des fois sur des projets, sur repeindre des bancs publics, fleurir les parterres, entretenir le cimetière. Ça c'est quelque chose sur lequel beaucoup de communes travaillent et les gens sont sensibles parce que c'est notamment les cimetières, ce sont des lieux très très sensibles pour la population. Donc souvent on va trouver du monde pour travailler là-dessus. Donc voilà, tout ce qui est fleurissement paysager, c'est des choses sur lesquelles les communes travaillent beaucoup avec les habitants.
Mais ça, c'est les petites actions, c'est pas encore les gros projets. Si on va refaire tout un bâtiment ou tout un aménagement public, quoi. C'est vrai qu'il y a différents degrés aussi dans l'implication. Ça peut aller jusqu'à combien de temps une implication, une démarche participative
C'est vrai que ça va dépendre du projet. Alors des fois. C'est vrai que le fait les communes des fois ou les communautés de communes mettent en place des projets qui peuvent être très longs dans le temps et donc c'est difficile de garder les gens sur des projets très longs. C'est vrai que c'est compliqué de garder la motivation et ça c'est un travail particulier que de pouvoir quelque part accrocher les gens et les accrocher suffisamment longtemps pour qu'ils s'impliquent, qu'ils ne se lassent pas et qu'ils sentent aussi que leur ce qu'ils apportent est vraiment retenu. C'est-à-dire que ça fait partie des points clés. C'est-à-dire qu'on fait travailler des gens, on fait réfléchir des gens. Il faut aussi qu'il y ait un retour quelque part pour que les élus montrent qu'effectivement ce travail fourni par les gens serve à produire le projet. Donc, parce que des fois, effectivement, les projets peuvent être longs. Alors, il y a des actions très courtes qui permet aussi des fois à des collectivités juste d'accrocher des gens ou de voilà, ça peut être des petites actions courtes. Ça n'empêche pas d'avoir en parallèle ou d'avoir des projets beaucoup plus longs. Les projets beaucoup plus longs, c'est un peu plus compliqué parce qu'effectivement, ça veut dire des ateliers de travail, des groupes de travail, qu'il faut fournir des fois vraiment un travail de réflexion sur le long terme. C'est pas juste je viens 2 heures un dimanche après-midi travailler. Donc il y a effectivement des échelles différentes et entre ces deux choses-là, il y a plein de niveaux différents. Et puis il y a aussi différents niveaux d'impliquer les gens, c'est-à-dire de leur... on peut juste informer les gens, ça je dirais que c'est un peu le niveau zéro de l'implication, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'implication. On dit aux gens, voilà le projet porter la cruté, c'est un porter à connaissance, on va dire. Ça, c'est un peu le niveau zéro.
Et puis même l'enquête publique, quelque part, enfin là, ce n'est pas la commune qui l'organise, mais je veux dire, l'enquête publique administrative classique, c'est un peu le niveau zéro, même si c'est
presque,
soi-disant participatif.
Presque, voilà. C'est effectivement, alors les gens peuvent quand même communiquer leurs avis, qui peuvent être pris en compte par le commissaire qui va relever tous les avis. Mais effectivement, c'est plus de l'information, en plus très indirecte, parce qu'il n'y a pas forcément une présentation. Donc voilà, il y a cette présentation du projet, et après, il y a différentes échelles, où les élus vont organiser des réunions où on va essayer de rassembler par des enquêtes ou par des ateliers, par des groupes de travail. Donc on va essayer de récupérer des retours. Et puis bon, ça c'est juste récupérer. Après il y a vraiment un travail collectif, on va dire. On fait vraiment un travail avec des plans, avec des maquettes, avec des écrits, des choses comme ça qui restent, jusqu'à des fois créer des groupes de travail où les élus s'impliquent même pas dans le groupe de travail volontairement pour laisser place aux habitants d'être libres, hein, vraiment dans la proposition de ce qu'ils font. Donc voilà, ça dépend vraiment des élus, ça dépend de ce qu'ils veulent. C'est à eux de poser ces limites, justement, de jusqu'à où on voudrait que les habitants s'impliquent. C'est aux élus de poser les règles du jeu dans toutes ces démarches. C'est peut-être une des choses qui ne sont pas toujours faciles à mettre en place, c'est justement où est-ce qu'on met cette limite et où est-ce que, du moins, être toujours vigilant, est-ce que les participants, enfin les habitants, ne décrochent pas. Mm-hmm. Parce que du coup, s'ils décrochent, ça perd de son sens.
Et puis, il y a le dernier degré, on va dire, ce sont peut-être les conseils. Alors, dans les villes, ça s'appelle des conseils de quartier, mais peut-être qu'à la campagne, dans les zones plus rurales, ça existe. Je ne sais pas,
oui,
des
ouais.
sortes de conseils citoyens en plus, quoi, non
Ben ça existe, hein, c'est-à-dire que c'est pareil, c'est des citoyens qui vont se rassembler autour de questions sur l'aménagement de leur collectivité.
Où ils régulièrement, quoi.
Enfin, voilà, régulièrement, ils vont avoir, et donc ils peuvent faire remonter leur desiderata. Après, c'est un travail aussi d'échange entre les habitants et les élus. Il faut que ça passe bien, pour que ça fonctionne. Il faut aussi qu'il y ait vraiment une écoute forte, parce que c'est vrai que souvent, beaucoup de collectivités vont dire, bah oui, mais moi, j'ai que les gens qui se plaignent et j'ai toujours les mêmes...
et ça, c'est voilà. un grand classique.
Bon, et donc, ça, c'est un grand classique. Mmh. Et en même temps, eh ben, on sait qu'en fait, il y a plus... être fragilisé par effectivement des gens qui sont contre un projet, alors qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont pour. Et donc, l'idée, c'est aussi d'écouter les gens qui sont contre, parce que s'ils sont contre, ils ont des raisons de l'être, pas toujours justifiées, mais en tout cas, c'est intéressant d'écouter tous les avis et justement de réussir à rester constructif dans toute cette écoute, et mais aussi de faire remonter les gens qui sont pour ou qui ont des choses à proposer. Des idées, des envies, des besoins. Donc la difficulté, elle est là, c'est de pas se laisser déborder par les gens qui sont que contre, mais c'est quand même de les impliquer parce que ils ont quelque chose à dire.
Et ces gens, quand il y a des conseils citoyens qui sont mis en place, c'est du tirage au sort. Quel est le mode de désignation, les volontaires justement?
Ça, je sais pas. Je connais pas bien le fonctionnement des conseils de ces.
Il y en a pas en fait dans les exemples, dans les 24 retours d'expérience, il y a pas d'exemple conseil citoyen permanent quoi.
Enfin, pas à ma connaissance. Alors après, moi, je connais pas tout forcément, mais dans les projets que moi j'ai pu suivre particulièrement, j'ai pas forcément d'exemple en tête. Il y en a sûrement, à vrai dire, mais j'aurais du mal à en parler, en toute franchise.
Et alors, un conseil municipal des enfants, qui est presque un classique, enfin, en tout cas, il en existe souvent, ça peut être considéré comme une démarche participative aussi?
Oui, tout à fait. Alors, il y a des élus qui sont très favorables et d'autres qui ne le sont pas. Donc ça, c'est un peu pareil, c'est des choix d'élus. Oui, bien sûr, c'est un moyen d'atteindre une certaine tranche d'âge de population. Pour que ce soit intéressant, il faut que ce soit sincère, c'est-à-dire qu'il faut effectivement que le mode d'emploi leur soit clairement donné à ces enfants pour qu'ils sachent jusqu'à où ils peuvent proposer des choses. Et est-ce que si c'est juste pour... Il ne faut pas que ce soit juste un conseil pour... quelque part, leur dire on vous donne la parole, mais en fait ne pas les écouter. Donc en général, quand il y a une démarche de faire ce genre de conseils de jeunes, c'est qu'on a envie de les écouter. Hein. Mais effectivement, c'est important d'être très clair dans les règles du jeu. Quand on donne la main comme ça à des jeunes ou à d'autres types de populations, c'est important d'être clair sur ce qu'on attend d'eux. Voilà. Et donc, pour les jeunes aussi bien.
Pour faire un petit récapitulatif des pièges à éviter, on en a parlé en fait en filigrane, mais en gros, c'est quoi les pièges à éviter?
Alors, je dirais que peut-être justement, c'est le fait de ne pas donner d'informations claires. Je pense qu'une des choses pour faire des démarches participatives, il faut que les élus soient vraiment sincères dans leur souhait d'impliquer les habitants. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit une démarche de façade, parce que ça, les habitants vont sans doute vite le ressentir, et donc ça va les desservir. Donc c'est important que les élus soient clairs, sincères, et qu'ils soient vraiment à l'écoute. Comme je disais, par rapport aux gens qui sont contre, c'est compliqué des fois, parce qu'il y a des gens qui sont virulents, donc c'est un petit peu compliqué, donc il faut pouvoir canaliser tout ça. Donc voilà, le piège, un des pièges, c'est là. C'est de pas avoir établi de lien franc. Et puis, je dirais de ne pas établir des règles claires. Je pense que vraiment, c'est important que les élus soient très clairs sur la limite qu'ils donnent aux habitants. Leur dire, nous, on a besoin de vous pour construire ce projet, mais la limite, elle est là. Ça, on ne fera pas, ça, on ne fera pas, ou ça, on fera. Ou ça. Voilà, qu'ils soient clairs dans le cadre et on attend de vous tel type de proposition, tel type, et c'est nous qui trancherons à tel moment, ou c'est pas nous, ou c'est vous, mais en tout cas que les règles soient claires. Ça, je pense que c'est vachement important que ce type de choses soient dites. Après, il faut faire attention, par exemple, quand des projets sont portés par les habitants, je vous donnais un petit peu...
Quand c'est l'initiative des habitants.
Voilà, de faire en sorte de ne pas récupérer les projets. Ça, c'est des choses auxquelles il faut être vigilant, parce que des fois, il y a des projets citoyens qui sont chouettes, et les élus trouvent les accueille favorablement, ce qui est souvent le cas. Mais il faut faire attention que quand il l'accueille favorablement, il ne s'en empare pas.
Qu'il ne le déforme pas, notamment.
Voilà, qu'il ne le déforme pas et puis qu'il laisse effectivement, quelque part, la propriété du projet aux porteurs, donc qu'il les accompagne. Donc, encore une fois, c'est clarifier le rôle de chacun et être sûr que, on vous donne cette liberté, mais nous, élus, on décide que ça, ce n'est pas de votre sort ou que c'est du vôtre. Enfin, voilà, d'être clair. Et particulièrement peut-être pour des projets portés par des citoyens où peut-être il y aurait une tendance à vouloir s'approprier le projet ou à reprendre un petit peu les choses. Un des pièges aussi, c'est faire attention à la confiance. Souvent, il y a souvent un petit peu de méfiance ou de peur ou de crainte sur des projets. Donc,
Part des élus, alors.
Oui, ça va coûter cher. Attention, la sécurité, oui, mais est-ce que vous avez pensé à ci, les assurances, enfin, qui vont plutôt essayer, faire attention à ne pas mettre des bâtons dans les roues dans un projet. Donc, laisser un petit peu place à la.
À la créativité, puis après on verra,
la spontanéité, puis après évidemment il faudra cadrer le projet pour que ça rentre dans
de pas mettre les freins tout de suite, c'est-à-dire d'y penser, les garder dans un coin de sa tête
et puis se dire peut-être que être assez raisonnable dans les freins, c'est-à-dire que souvent on a tendance, mais comme tout projet d'ailleurs, à s'arrêter aux freins. Nous, Brudette, justement, ce qu'on essaie de montrer, c'est que les freins, on peut souvent les lever, et donc il faut avoir cette une des difficultés, c'est ça, c'est de pas avoir peur, de laisser peut-être un peu de souplesse pour avoir confiance, se dire que les citoyens portent des projets et qu'ils sont peut-être que citoyens, mais ils ont peut-être aussi des projets très, très innovants et très intéressants.
Donc, à contrario, les clés de la réussite, puis ça sera donc la clarté, la transparence. Et puis, est-ce qu'il y en a d'autres qu'on n'aurait pas évoquées en creux? Des clés de réussite.
Alors, des clés de réussite, évidemment, c'est des projets qui ont été bien réfléchis, c'est des projets qui sont vraiment aussi l'idée des projets quand même portés par des collectivités. C'est vraiment des projets aussi pas individuels. Donc, on est clair qu'on est
vraiment
pas
collectif.
On est sur du collectif, on est sur du bien public, on est sur du Donc, ça, c'est important que ce soit vraiment aussi un projet qui soit pas pour faire plaisir à un tel ou une telle.
D'intérêt général.
Il faut vraiment que ce soit d'intérêt général. Donc, effectivement, si c'est d'intérêt général, il y a plus de chances que ce soit apprécié, porté collectivement. Après, les clés de réussite, souvent. Peut-être que ça se voit avec le temps aussi. Donc, c'est vrai que ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à des projets qui n'auraient peut-être pas été bien réfléchis, du coup, on voit qu'ils se cassent la gueule. Donc, un facteur de réussite, c'est que ça ne se casse pas la gueule. Enfin, c'est un peu bête à dire ça.
Et un calendrier raisonnable aussi.
Oui, donc, c'est des choses. Un calendrier raisonnable. C'est important aussi d'avoir des projets qui sont pas trop longs, où on ne s'essouffle pas, qui ne sont pas trop. Faire attention à la part bénévole, etc., qui est souvent très, très forte au départ et qui s'essouffle avec le temps. Ça, c'est quelque chose que l'on constate beaucoup dans des projets portés par des citoyens. C'est un des points de vigilance à avoir peut-être sur ces projets. Il faut ce que je disais aussi, il faut garder les gens jusqu'au bout du projet. Ça fait partie de ces choses. On sait que les gens s'essoufflent parce que c'est lassant, c'est difficile. Qu'est-ce que je peux dire d'autre?
Là, j'ai pas d'autres.
C'est bien déjà.
Ouais.
On ne nous reste pas beaucoup de temps, il nous reste 3 minutes, mais est-ce qu'on peut évoquer quelques projets menés en Bretagne et suivis par le réseau Brudaide qui sont intéressants, pas forcément dans le Finistère d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a eu comme projet sur les 24? On ne va pas évidemment détailler les 24, mais...
Non, alors il y a beaucoup de projets de commerce ou de café associatif qui sont plutôt sympas. On peut évoquer à Guipel, donc en Ille-et-Vilaine, pour ne pas rester que dans le Finistère, le Café des Possibles, qui est un bar, restaurant, épicerie qui fonctionne très très bien, qui est effectivement où les élus se sont très très impliqués dans la création de cette SIC en fait.
C'est une SIC, société civile d'intérêt collectif. Il y a par exemple la commune dedans. Il peut y avoir des citoyens, peut y avoir une entreprise aussi, c'est ça. Mélange.
Donc c'est une implication vraiment globale des élus et aussi des citoyens pour créer un lieu de vie qui fonctionne très bien.
C'est Guipel, c'est grand comment, pour avoir une idée?
Bonne question. Guipel, c'est pas grand, c'est tout ce que je peux dire. Combien il y a d'habitants? Mes collègues, ils vont m'en vouloir de pas savoir ça par cœur. Je devrais, mais je ne le sais pas par cœur. Donc plutôt.
C'est pas très grand.
Non, c'est pas très grand.
On s'excuse auprès des Guipellois.
1700 habitants, voilà. J'allais dire 1000, donc je me trompe.
Je pensais à 2000, moi.
On est dans les 2000. Bon, ça, c'est un exemple, mais il y en a bien d'autres. quelque chose qui fonctionne bien, c'est les budgets participatifs aussi. Ah. J'en ai pas parlé.
Ah oui, malgré le côté technique du budget.
Voilà. Alors en fait, ça c'est bien. Je peux l'évoquer le cas de Saint-Martin-des-Champs, mais il y en a d'autres. Il y a
qu'est-ce qu'ils ont fait à Saint-Martin-des-Champs?
Ils ont mis sur la table 30 000 euros en disant ben voilà, on fait appel aux citoyens, donnez-nous vos projets. On va créer une commission avec des citoyens, des élus, Brudet et des acteurs. Voilà, on va créer une commission et on va étudier ces projets. On va les suivre. Vous allez les présenter. Donc il y a eu toute une démarche où les gens sont venus présenter des projets. Il y a eu un premier tri, puis un deuxième tri, puis un troisième tri, puis après un vote au final entre 4 projets ou 5 projets, un vote qui a été remis au public, et donc ça a été voté. Ils ont gardé les 3 premiers projets qui rentraient dans la fourchette financière qui était allouée, donc de 30 000 euros. Et donc après, bon, est venu le confinement qui a un peu freiné parce que les projets devaient être mis en œuvre début 2020. Donc ils vont être mis en œuvre, donc c'est voilà, créer du pâturage avec des moutons, créer des espaces jeux pour les adolescents, créer un espace de recyclage pour du papier, etc. Donc voilà, c'est des choses, c'est des propositions citoyennes et qui ont, donc ça marche bien et ça permet vraiment de donner la main un petit peu à des citoyens.
Et c'est important qu'il y ait un appui technique pendant la démarche, comme les gens de Brudet qui viennent aider. C'est mieux pour que la réussite du projet, j'imagine.
Ça leur permet d'avoir un regard de ce qui se passe ailleurs. Donc c'est vrai que nous, ce qu'on apporte,
c'est vraiment un
regard externe, neutre, et vraiment un regard sur qu'est-ce qui se fait ailleurs pour leur donner des idées. Parce que bah, voilà, l'idée aussi de Brudet, c'est ça, hein, c'est d'aider les uns les autres à construire des projets qui sont cohérents, qui fonctionnent, et puis justement de montrer ce qui ne fonctionne pas, ce qui est difficile, les freins, les leviers, pour un petit peu permettre d'aller plus vite dans un projet. Donc oui, c'est important de s'accompagner de partenaires comme nous ou comme d'autres qui vont pouvoir faciliter un petit peu la mise en œuvre des projets.
Bon, merci Maïwenn Manier du réseau Brudet qui aide les élus vers un développement durable et qu'on retrouvera bien sûr dans l'EM très prochainement. En attendant, vous pouvez réécouter cet entretien sur le site de Radio Évasion. Merci.
Merci.
L'EM, l'émission.